D'abord, je suis content de vous souhaiter la bienvenue à Arnaud Rousseau, parce que, et je vous retrouve, il y a un mois et demi, ici, vous aviez annoncé ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous dites pour les semaines qui viennent? Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Et voilà maintenant le manque d'électricité, de chauffage, d'énergie qui vont augmenter, et d'autre part que surviennent 4 jours de froid, de neige, de gel, ça ne va rien arranger, je pense.
Non, effectivement, les conditions climatiques sont un des éléments, en tous les cas, pour la production agricole qui nous concerne au premier chef quand on est agriculteur. Et c'est vrai que cette nuit, les températures qui sont descendues en France jusqu'à moins 4 degrés ont impacté durement un certain nombre de mes collègues, qu'ils soient arboriculteurs ou viticulteurs, qui ont passé la nuit dehors pour essayer de protéger leur culture.
Ça va faire 4 jours.
Bah, ça et c'est encore,
demain soir
c'est
ou mardi.
Encore annoncé demain matin, donc la nuit prochaine sera à nouveau décisive.
C'est-à-dire que les producteurs, les éleveurs vont souffrir et les consommateurs à la fin aussi.
Écoutez, à chaque fois qu'il y a de la production agricole qui disparaît à cause du climat, c'est un peu plus de tension sur les marchés et c'est pas forcément une bonne nouvelle dans les conditions dans lesquelles nous sommes en ce moment.
Et l'inquiétude gagne, vous le savez et vous le sentez dans le pays vous-même, à cause de l'augmentation des denrées alimentaires, on a l'impression que c'est sans fin. Est-ce que les prix vont continuer à grimper ?
La réponse est oui, malheureusement, parce que pour les agriculteurs, que ce soit à la fois les sujets de fourniture, donc les agriculteurs mettent du carburant dans leur tracteur, comme tous les Français dans leur voiture, utilisent un certain nombre de produits, que ce soit des produits d'engrais pour mettre sur leur culture, qui augmentent très fortement à cause du coût de l'énergie. Et donc ça va continuer à augmenter dans des proportions malheureusement importantes.
On prend des exemples ?
On prend des exemples.
Par exemple, la baguette de pain.
Alors, moi, je vais vous prendre l'exemple que je connais bien, qui est celui de l'huile.
Oui.
La bouteille d'huile de tournesol qu'on fabrique en France. Les huiles, l'huile de tournesol ou l'huile de colza, enfin, en tous les cas, les huiles de graines européennes, elle vaut autour de 1,50 €. Elle a commencé à augmenter et elle va continuer à augmenter pour atteindre probablement jusqu'à 3 € d'ici les 6 prochains mois. C'est le fruit à la fois de l'augmentation, comme je vous le disais, de tout ce que l'agriculteur achète, mais aussi la raréfaction du produit. Parce qu'on a aujourd'hui moins de produits, et notamment parce qu'une partie importante du tournesol en Europe
est en Ukraine. Et nous, ça veut dire que les surfaces de tournesol vont se développer en France ?
Alors, on en a déjà un peu plus de 600 000 hectares, et on espère qu'on pourra en produire encore un peu plus cette année.
Et quand vous dites les huiles, on sent que d'autres produits autour de ce que vous faites vont augmenter. Mais vous avez dit quelques mois, ça veut dire la fin de l'année pour l'huile ?
Alors, ça veut dire que les prix ont déjà augmenté, mais ça, je pense que tout le monde l'a constaté, et ça va continuer à augmenter. Et d'ici la fin de l'année, oui, effectivement, pour ce qui est de l'huile, on aura des hausses importantes à passer. Vous savez, dans une bouteille d'huile, le tournesol, c'est près de 90% de la valeur du produit. Or, le tournesol valait, dans une exploitation française, autour de 450 € lors de la dernière récolte. Et aujourd'hui, ça vaut entre 750 et 800 €. Et donc, quand on a une telle augmentation du prix de la matière première, évidemment, si on ne le répercute pas, l'agriculteur, lui, ne peut pas vivre.
Mais Arnaud, vous ne jurez pas de ce qui va se passer en 2023 ?
Personne ne peut se projeter en 2023.
Ça peut baisser ou ça va encore ?
Écoutez, personne ne sait ce que seront les conditions de production et la météo, ce que va devenir le conflit en Ukraine. Ce qu'on sait, c'est que là, pour la récolte et pour le moment dans lequel on est, la hausse, elle est inscrite d'ici la fin de l'année.
Et est-ce que ça veut dire que nous payons la guerre d'Ukraine ?
Pas seulement. On avait déjà eu des hausses qui correspondaient à finalement ce qui s'est passé sur le plan de la production mondiale au moment du Covid. Et puis on a depuis le conflit en Ukraine un emballement de la hausse qui tient à l'absence de capacité à se fournir dans un certain nombre
donc
de produits.
Donc vous êtes en train de dire qu'il y a un effet retard, parce que vous dites le début de la guerre.
Oui.
Quand elle se prolonge d'un mois et demi.
Absolument. Et d'ailleurs, les producteurs français aujourd'hui demandent absolument à ce qu'on puisse continuer à passer les hausses auprès de la grande distribution. C'est absolument nécessaire si on veut continuer à pouvoir fournir et avoir des producteurs qui vivent de leur métier.
Donc, vous dites que les négociations qui ont eu lieu il y a quelque temps, qui sont terminées, je crois, la fin mars, et qui avaient augmenté de 3,5 peut-être à 5, il faut renégocier parce que les prix, il faut les freiner.
Vous avez raison, absolument. Dans le cadre de la fin des négociations commerciales qui se sont achevées le 1er mars, il y avait eu un certain nombre de hausses qui avaient été acceptées, notamment sur la matière première agricole. C'est le fruit de cette fameuse loi État généraux de l'alimentation, EGalim. Mais on doit aller plus loin et on doit pouvoir être en capacité de repasser du tarif auprès de la grande distribution.
Donc vous demandez ici une renégociation ?
Absolument, dès maintenant.
Oui. Et au total, ça va faire 10 à 13 % d'augmentation par rapport à cette négociation.
Oui, c'est
au total.
En moyenne, en tous les cas, c'est l'optique, mais ça dépend évidemment des produits, ça dépend des quantités, ça dépend des endroits. Mais on aura besoin absolument de repasser une hausse importante, encore une fois, pour permettre aux producteurs de continuer à produire.
Qu'est-ce que représentent les dépenses de nourriture dans le budget d'une famille ?
Écoutez, aujourd'hui, dans le panier de la ménagère, la dépense alimentaire représente de l'ordre de 13 à 14%. C'est beaucoup moins qu'il y a 25 ans, mais évidemment...
C'est pas l'essentiel, vous dites.
Non, aujourd'hui, le premier poste de dépense d'un foyer, c'est le logement, c'est le loyer, et puis l'alimentation ne représente que 13%, devrais-je dire, parce qu'il faut aussi qu'on retrouve le juste prix de l'alimentation. J'ai conscience que l'impact sur le pouvoir d'achat est absolument insupportable dans bien des familles, mais on va retrouver aussi ce qu'est la réalité du coût de l'alimentation. Bien se nourrir avec des produits de qualité, ça a un coût.
Et en plus, il faut ajouter la menace climatique.
Alors ça, c'est un élément important. On a finalement une menace géopolitique en ce moment qui a rendu inaccessible un certain nombre de produits et mis des tensions fortes. On pense au blé, on a parlé du tournesol. Mais on a en agriculture, et ça c'est une constante, les impacts du climat et on sait qu'on a des aléas climatiques.
Autrement dit, ils ne sont pas sortis de l'auberge.
Autrement dit, on va avoir à gérer la complexité, Jean-Pierre Elkabbach, entre à la fois d'un côté les sujets de production et de l'autre côté des sujets qui nous restent adressés, notamment à nous, le monde agricole, c'est les sujets du changement climatique, c'est les sujets de la biodiversité.
Oui, et j'ai vu que le candidat Macron a promis hier, s'il est réélu, et dès cet été, une prime de 6 000 euros ou allant jusqu'à 6 000 euros défiscalisée, s'il est élu. Hein. S'il est élu, on se demande si ça sera... l'été, à la rentrée, avec quelle équipe ou quel gouvernement. Et vous, vous proposez, sur le modèle du chèque carburant, un chèque alimentaire.
Alors nous, ce qu'on observe...
Pour les gens qui ont le plus besoin.
Absolument. Ce qu'on observe en France, mais c'était déjà le cas avant la crise ukrainienne, ce qu'on observe, c'est qu'un grand nombre de nos compatriotes, près de 8 millions d'entre eux, ne se nourrissent pas comme ils le souhaiteraient. Et ce qui est en train de se passer accélère cette problématique.
Ça, c'est la constatation. Le remède, c'est, vous dites...
Mais écoutez, en tous les cas, pour
même
un agriculteur...
Même si on dit chèque après chèque après chèque,
non, mais
jusqu'à
vous savez,
quand, mais vous en demandez
un. Pour un agriculteur, voir un certain nombre de ses compatriotes ne pas pouvoir manger quelque part ce qui est souhaitable au quotidien ou se priver d'un repas ou rogner sur la dépense alimentaire, c'est difficile à accepter quand votre métier, c'est de nourrir une alimentation en quantité et en qualité. Et donc effectivement, il faudra pouvoir apporter aux foyers les plus modestes des réponses rapidement et ça passe par un chèque alimentaire.
Et est-ce que la terre française a assez de ressources pour aller jusqu'à l'autosuffisance, comme disent certains.
Alors, pas de panique. Hein. On aura en France de quoi nourrir l'ensemble de la population. En revanche, on part de la question de la souveraineté. Et cette souveraineté, c'est une souveraineté, évidemment, quand on parle de la question agricole, qui est une souveraineté européenne, mais qui doit prendre aussi en compte ce qui se passe autour d'elle, et notamment...
On dit la souveraineté française, même si elle est solidaire, la souveraineté française avec la souveraineté européenne, alors qu'il y a de la concurrence entre les Européens.
Oui, mais la souveraineté, Jean-Pierre Elkabbach, ça ne peut pas être l'autosuffisance. Sinon, vos auditeurs, vos téléspectateurs, ce matin, qui sont avec leur café ou qui vont prendre un chocolat chaud, n'auraient pas de quoi le faire si la vision de la souveraineté, c'est l'autosuffisance.
C'est-à-dire
on continuera.
Il faut importer.
Mais bien sûr, on continuera à avoir des échanges. Vous savez qu'il y a près d'une dizaine de pays dans le monde qui sont capables d'échanger des matières premières agricoles. La France et l'Europe font partie de ces pays et donc une responsabilité.
Vous avez noté que pendant la campagne présidentielle, on entend souvent qu'il est possible de bloquer ou de geler les prix dans différents domaines et les prix des denrées alimentaires. Est-ce que c'est possible ?
Alors, c'est possible. Moi, je pense que ça n'est pas souhaitable. Ça n'est pas souhaitable, encore une fois, parce qu'il faut qu'on continue à commercer et à échanger. Et que, finalement, si les pays qui ont cette capacité productive et cette capacité d'export bloquaient les prix, ce serait catastrophique pour ceux qui n'en ont pas les moyens.
Et il y a la baisse des 18 centimes sur l'essence. En principe, ça va durer jusqu'à la fin juillet, c'est-à-dire 4 mois. Vous vous dites que c'est bien, mais c'est insuffisant. Alors, jusqu'à quand vous souhaitez, par exemple, que ces prix baissent ou soient compensés ?
Écoutez, ce qui est important en tous les cas, c'est qu'on puisse continuer à pratiquer nos métiers. Et donc, nous, on utilise un carburant qui s'appelle le GNR, le gasoil non routier, pour mettre dans nos tracteurs. Il a augmenté de manière très importante, comme pour chaque consommateur qui va faire le plein à la pompe. Et donc, on a besoin de cet accompagnement. Ben, faisons le point dans 4 mois en fonction des conditions du moment.
Oui. À la demande de la France, j'ai vu que Bruxelles, la Commission, reporte le principe de mettre chaque année 4% des terres cultivables de l'Europe en jachère. 4 millions d'hectares, c'est-à-dire 4 millions qui vont produire ?
Alors, 4 millions qui pourraient produire, la réalité, c'est qu'ils ne produiront pas parce qu'il y a un certain nombre de ces surfaces qui ont un caractère productif, somme toute, limité ou qui ne sont pas directement productifs. Mais en tous les cas, une partie de ces 4 millions pourra être utilisée là, tout de suite, pour pouvoir produire un peu plus. Ce sera très probablement du tournesol ou peut-être du maïs ou d'autres cultures.
En gros, la France ne risque pas la pénurie. Il y aura une rareté, il y aura peut-être des rationnements. La pénurie et les risques dans 12 à 18 mois dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient.
Absolument. Vous l'aviez dit ici. Je veux le redire à ceux qui nous écoutent, il n'y aura pas de pénurie en France. En revanche, il y aura une tension très forte sur les prix. Et pour les pays qui importent massivement des matières premières agricoles, les conditions sont très, très compliquées à court terme. On parle d'un ouragan de famine.
C'est des stabilisations, de coûts d'État, etc.
Avec des contraintes telles qu'on en a déjà.
Donc il faut les aider.
Bien sûr, il faut avoir un regard... vigilant
solidaire pour les voisins.
Sur ceux qui nous sont absolument...
Parce qu'il y a des répercussions sur nous. Je vais peut-être vous fâcher, mais il y a un collectif de scientifiques, sérieux apparemment, qui dénonce l'idée qui consiste, pour beaucoup de monde, les agriculteurs et nous, la consommation, à produire plus pour éviter justement des drames en Afrique et au Moyen-Orient. Ils disent aussi que sur le plan écologique, c'est une erreur désastreuse et même absurde.
Alors, le sujet n'est pas d'opposer Jean-Pierre Alcabache entre ceux qui, d'un côté, finalement, respecteraient l'environnement et puis d'autres qui n'auraient à l'idée qu'une forme de productivisme.
Est-ce qu'il ne touche pas juste ?
En tous les cas, moi, ce que j'attends des chercheurs, c'est, un, de ne pas opposer et, deux, de trouver. Et moi, j'attends de ces gens qu'ils viennent nous proposer des solutions. Nous, ce qu'on propose très clairement, c'est une vision qui s'appuie sur, finalement, une capacité à produire et non pas, finalement, produire moins, ce que prévoit aujourd'hui l'ambition européenne.
Produire mieux.
C'est produire ce que nous sommes capables de produire dans un cadre respectueux de l'environnement et donc, quelque part, quelque chose qui marie une vision d'un environnement durable qui accède à une décarbonation de la production telle que les ambitions sont portées pour 2050, mais qui ne renonce pas à produire parce qu'on voit bien qu'en ce moment, le sujet de la production, c'est un sujet central pour le pouvoir d'achat.
Oui, mais vous pouvez reconnaître, c'est un casse-tête.
D'arriver bien sûr que c'est compliqué.
À réconcilier les deux.
Comme souvent, les choses sont complexes et nécessitent de prendre un peu de recul. C'est la raison pour laquelle nous n'opposons jamais la production et l'environnement. Nous essayons de les réconcilier.
Oui, à partir de quand ?
Maintenant. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu pour le faire. On a tout un tas de propositions. Ça nécessitera cependant qu'on investisse massivement dans la recherche et l'innovation pour apporter des solutions.
C'est-à-dire que les agriculteurs d'aujourd'hui, et surtout les jeunes, ne sont plus les paysans d'autrefois ?
Non. Clairement plus les paysans d'autrefois. Et on a un gros challenge en France à relever puisque près de 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et si on veut attirer des jeunes à faire ce beau métier, il faudra leur donner à la fois de l'ambition en termes de revenus.
De la formation.
De l'ambition en termes de revenus parce qu'on ne fait pas ce métier si on n'en gagne pas sa vie. Et aussi de l'ambition en termes de respect à la fois de l'environnement, de la production et des attentes des consommateurs.
Mais vous devez tenir compte de ceux qui ne croient pas ce que vous dites. Les scientifiques, encore eux, disent que la planète ne manque pas de nourriture et de ressources, mais ils disent que les pays les plus riches surconsomment des produits animaux. C'est-à-dire qu'ils mangent trop de viande, de porc, de volaille.
Vous savez, moi, Jean-Pierre Alcabache, moi je suis un pragmatique. Il y a aujourd'hui près de 800 millions de gens sur la planète qui ne mangent pas leur faim tous les jours, et ce chiffre augmente. Alors que les pays industrialisés doivent améliorer la réduction du gâchis alimentaire qui est près de 30 kilos
autrement
en France...
Autrement dit, ce sont des Occidentaux qui parlent aux Occidentaux.
Absolument. C'est des gens qui ont le ventre plein, qui font une analyse. Moi, je peux vous dire que quand vous êtes un Chinois qui accède à une capacité à manger du poulet ou du porc, alors que vous avez mangé toute votre vie du riz, vous le faites. Ah. Mais nous devons nous veiller dans les pays qui avons ces moyens à réduire notre gâchis alimentaire et à veiller à notre manière de consommer.
Pour conclure, Arnaud Rousseau, on a compris que les céréales deviennent une arme de chantage et de guerre. Et d'autre part, que l'ordre mondial dans lequel on a vécu ne sera plus le même. Évidemment.
Absolument, et c'est la raison pour laquelle, face à cette vision un peu complexe, on doit réconcilier la production et l'environnement.
Mais ça tend à des changements, ça il faut le dire.
Oui, les changements, ils ont déjà lieu, mais on est capable, je pense, avec une agriculture responsable, de répondre à ces enjeux. Nous, ce qu'on veut, c'est une agriculture de solution.
Merci Arnaud Rousseau, à bientôt, et surtout une bonne semaine.
Merci Jean-Pierre Alcabache.
Merci Jean-Pierre, merci à vous Arnaud Rousseau. Il est 8h15.